Merci d'être fidèle à la Radio du Monde. Il est 13h en temps universel. Le journal, c'est avec vous Gilles Moreau. Bonjour.
Bonjour Victor Moria, bonjour à tous. Dans l'actualité, de nouvelles fortes pluies prévues dans le sud-est de l'Espagne, dévastées par des inondations meurtrières. Le roi Philippe et le Premier ministre espagnol sont sur place. Ils ont été conspués par une foule en colère. Dans la course à la Maison-Blanche, c'est le sprint final avec toujours les fameux états pivots convoités par les deux candidats. Michigan, Pennsylvanie, Caroline du Nord ou bien encore Géorgie où retourne aujourd'hui Donald Trump. Nouvelle journée de vote en Moldavie. Deux semaines après le référendum sur l'Europe, c'est le second tour de la présidentielle. Maia Sandu, la présidente sortante, affronte un candidat soutenu par les socialistes pro-russes. Tandis que de nouvelles fortes pluies sont annoncées dans le sud-est de l'Espagne, le roi Philippe et la reine Letizia sont arrivés à la mi-journée à Paiporta, près de Valence, l'une des communes les plus endeuillées par les tragiques inondations du début de semaine. Avec eux, le Premier ministre Pedro Sanchez. Ils ont été accueillis par une foule en colère qui les a traités d'assassins et leur a lancé des projectiles. Hier, la gestion de la crise par les autorités espagnoles a provoqué la fureur des habitants de Paiporta. Un reportage de notre envoyé spécial Paul Inglés.
L'eau qui monte à toute vitesse, les coups de boutoir des voitures contre le mur de la maison et la crainte qu'ils ne tiennent pas le choc. Le souvenir de la soirée dantesque de Laura Cascales, c'est aussi cette alerte sur le téléphone. Les mobiles ont hurlé entre 20h et 21h. Trop tard.
À 21h, il y avait presque 2 mètres d'eau chez moi. C'est une honte. Ils ne pouvaient pas alerter davantage. Je suis rentrée du travail. Une minute de plus, un feu rouge, et je ne serais pas arrivée chez moi à temps. Je suis descendue de ma voiture et la police a crié. Le canal déborde, rentrez tous. Bon Dieu, vous ne pouviez pas avertir avant ?
Indignation d'une alerte tardive et amertume de secours qui arrivent au compte-gouttes. Marisa Planeis est furieuse.
On a l'aide des voisins, des gens des alentours, mais on n'a aucune aide du gouvernement. Ma grand-mère ne peut pas sortir. Cela fait 4 jours qu'elle est bloquée à l'étage chez elle parce qu'ils n'ont pas pu nettoyer la rue.
Dans le centre-ville, des voitures de police et de la protection civile vont et viennent. Quelques véhicules de l'armée sont également arrivés, bien moins nombreux que les volontaires. Alejandro Delgado, 15 ans, les attend désespérément pour évacuer les décombres et la boue.
Hagan algo, por favor. Por favor.
Paul Inglés, Paiporta, RFI.
Le roi et la reine sont donc à Paiporta. Ils devaient ensuite se rendre à Chiva, une autre ville des environs de Valence, durement frappée par cette tragédie qui a fait plus de 200 morts. Au Proche-Orient, le Hamas et le Hezbollah toujours dans le viseur d'Israël. Ce matin, de sources médicales palestiniennes, les forces israéliennes ont intensifié leurs frappes sur le nord de la bande de Gaza, faisant au moins 23 morts. Au Liban, les autorités font état d'au moins 3 victimes dans une frappe israélienne ce matin près de Saïda. Direction maintenant l'Iran, où une jeune étudiante de la prestigieuse université Azad de Téhéran a été arrêtée. Elle s'était dévêtue en signe de protestation contre le harcèlement de miliciens, des gardiens de la révolution. Siavosh Ghazi, vous êtes en direct de Téhéran.
Absolument, sur la vidéo largement partagée, on voit la jeune étudiante en culotte et en soutien-gorge assise sur des escaliers alors qu'un gardien de l'université est en train de passer un appel, sans doute pour demander de l'aide. Ensuite, elle se lève et se rend sur l'avenue à l'intérieur de l'université où elle marche sur plusieurs dizaines de mètres. Elle enlève même sa culotte sur le chemin quelques dizaines de mètres plus loin. Elle est finalement entourée par des femmes en tchador qui la poussent de force dans une voiture. Selon la version publiée sur les réseaux sociaux, elle a été blessée lors de son arrestation. Elle aurait enlevé ses vêtements pour protester contre les gardiens de l'université qui lui avaient demandé de respecter le voile et déchirer ses vêtements. Mais pour les responsables de l'université, la version est tout autre. Cette jeune étudiante, affirme l'université, est mère de 2 enfants et a des problèmes psychologiques car elle s'est séparée de son mari, d'où son attitude. En tout cas, elle a été emmenée au commissariat avant d'être envoyée dans un hôpital pour problèmes psychiatriques. Des actrices iraniennes se sont solidarisées avec Ahu Daryari, qui est âgée de 30 ans, et des avocats iraniens ont également affirmé qu'ils étaient prêts à la défendre.
Merci Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran. À deux jours du vote aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite pour les deux prétendants à la Maison-Blanche. Kamala Harris, qui retourne dans le Michigan pour son ultime dimanche de campagne. Donald Trump, lui, est attendu dans d'autres États pivots, les fameux swing states, Pennsylvanie, Géorgie et Caroline du Nord notamment. Hier soir, Kamala Harris a fait une visite surprise à New York. Elle s'est invitée à Saturday Night Live, émission de divertissement satirique bien connue outre-Atlantique, Guillaume Nodin.
En venant lancer Saturday Night Live sur NBC, Kamala Harris participe à une véritable institution américaine. C'est la 50e saison de cette émission incontournable de l'humour et de la musique. Une apparition de 2 minutes face à Maya Rudolph, la comédienne qui l'incarne depuis qu'elle est candidate. Les deux femmes sont habillées de la même façon et se parlent à travers un miroir et la vice-présidente se lance dans quelques blagues.
Ravie de te voir Kamala et je suis là pour te rappeler que tu vas réussir parce que tu peux faire quelque chose que ton adversaire ne peut pas faire. Tu peux ouvrir des portes.
Une allusion aux difficultés de Donald Trump à ouvrir la porte d'une benne à ordures quand il s'était habillé en éboueur après que Joe Biden avait assimilé ses soutiens à des ordures. Autre allusion, celle à son rire, souvent moqué par Donald Trump.
Je ne ris vraiment pas comme ça, si.
Un peu, répond la comédienne qui s'engage à voter pour Kamala Harris, laquelle conclut en lui demandant si par hasard elle n'est pas inscrite en Pennsylvanie, l'état le plus important de cette élection, où elle a prévu de passer la journée de lundi. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Les électeurs de Moldavie sont de retour ce dimanche dans les bureaux de vote, 2 semaines après la victoire sur le fil du oui au référendum sur l'Union européenne. Face à face au second tour de la présidentielle, la sortante Maia Sandu, pro-européenne, est arrivée largement en tête au premier tour. Et Alexandre Stoyanoglou, ancien procureur soutenu par les socialistes pro-russes. La campagne a été marquée par de fausses informations et des déclarations homophobes, ce que dénonce l'activiste LGBT Angela Frolov au micro de Julien Chavanne.
We invite our community to go to vote, to think about their future.
Nous invitons notre communauté à aller voter, à réfléchir à son avenir. De nombreuses fausses informations sur les LGBT ont été diffusées ici, les mêmes que le pouvoir russe utilise en Russie, mais aussi en Géorgie. Plusieurs candidats ont par exemple raconté que les garçons pourraient devenir des filles et les filles pourraient devenir des garçons, que les enfants apprendront à l'école comment faire l'amour.
We teach how to make sex and all the They want to spread fear.
Avec tout ça, ils veulent semer la peur. Beaucoup de gens ont peur que des personnes LGBT viennent d'Europe pour détruire leur famille, leurs enfants, et que tous les gens seront obligés d'être gays ou lesbiennes. Beaucoup d'idées totalement stupides.
En Moldavie, les bureaux de vote resteront ouverts jusqu'à ce soir 21h. Les premiers résultats attendus une heure plus tard. La grande conférence de l'ONU sur la biodiversité a maintenant pris fin à Cali en Colombie sur un constat décevant. La COP16 a échoué à financer et à stimuler les timides efforts de l'humanité pour cesser de détruire la nature. Que restera-t-il de ce rendez-vous qui a mobilisé près de 200 nations dans la lutte pour la biodiversité? La réponse de notre envoyé spécial Lucille Gimbert.
Alors que l'hélicoptère a fait sa dernière ronde aérienne autour de la zone verte installée au centre-ville, on retiendra que malgré les menaces de la guérilla, la COP biodiversité de Cali aura été, une fois n'est pas coutume, une fête populaire et une agora politique pour les organisations sociales locales. En termes de texte adopté par les négociateurs, Arnaud Gilles, du Fonds mondial pour la nature, veut voir le verre à moitié plein.
La reconnaissance et l'institutionnalisation du rôle des populations autochtones dans les décisions biodiversité des COP. Deuxième décision qui est structurante et qui est une avancée à Cali en dépit de tous les obstacles qu'on avait et la promesse de retrouvailles mouvementées, c'est la décision d'avoir une méthode pour cartographier et identifier les 300 et quelques écosystèmes marins d'importance qu'il nous faut absolument protéger et entretenir.
Le fonds Cali a aussi été créé pour faire contribuer économiquement les entreprises pharmaceutiques et agroalimentaires en tête lorsqu'elles utilisent les données génétiques numérisées des plantes et animaux. C'était une demande de longue date des pays riches en biodiversité. Les délégués des plus de 190 pays ont toutefois échoué, et c'est le gros point noir de cette COP, à se mettre d'accord sur la façon de mobiliser plus d'argent pour financer les efforts de protection de la biodiversité et sur la façon d'évaluer les avancées faites sur le terrain à l'échelle l'échelle nationale. Lucille Gimbert, Cali, RFI.
Enfin, en tennis, à l'affiche tout à l'heure, la finale du tournoi de Paris-Bercy. L'Allemand Zverev partira favori face au Français Hugo Humbert. Premier coup de raquette, 15h, 14h, temps universel. Ce sera le prochain journal et nous serons bien sûr en direct avec l'excellent Éric Mamrut. Dans l'immédiat, sur RFI, si loin, si proche. 14h10, ici à Paris.